100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, le gouvernement turc a beau multiplier les annonces pour lutter contre l'inflation galopante, la crise est bien là. Le taux de croissance qui dépassait les 7% en 2017 serait de 1,2% cette année seulement selon la COFAS. Dans sa chute, l'économie turque entraîne des tours et des immeubles, des symboles de la réussite il y a quelques années, qui poussaient comme de gros champignons dans les villes du pays, à Istanbul en particulier, la capitale économique. Mais aujourd'hui, les rêves de béton s'écroulent, des dizaines de projets immobiliers sont à l'arrêt. Et beaucoup de Turcs en sont victimes. Un reportage de notre correspondante à Istanbul, Anand Lauer.
Chaque jour, depuis début janvier, un petit groupe plante des clous sur un grand carton noir au pied d'un très grand panneau d'affichage devant un immense trou béant. Les clous sur le fond noir dessinent les contours d'une maison, celle qu'ils auraient dû avoir. Sur le très grand panneau, la publicité d'un immeuble d'une vingtaine d'étages, tout en acier et baie vitrée. C'était le projet Brooklyn City et certains dans le groupe auraient dû vivre ici. À la place, il y a ce trou béant, cette étendue boueuse où leurs rêves se sont enlisés. Nous sommes à Fikir Tepe, un quartier de la rive asiatique promis à devenir le nouveau Brooklyn d'Istanbul. Au milieu des immeubles neufs, plusieurs chantiers sont à l'arrêt et des milliers de familles en attente d'un appartement. Engin Agüzel est de ceux-là.
J'avais une maison de 3 étages, héritée de mon père. Comme 90% des habitants de Fikir Tepe, nous avions construit cette maison de nos propres mains dans les années 1960-1970. Parents, enfants, oncles, nous avions porté sur nos dos les sacs de ciment, de sable, les briques. Aujourd'hui, ma maison est détruite.
En 2011, lorsque des promoteurs étaient venus le voir pour acheter son terrain et lui promettre un bel appartement dans une tour tout confort, Engin avait refusé, comme beaucoup d'autres propriétaires. Mais en 2015, ils ont reçu un ultimatum du ministère de l'Urbanisme. Leur logement étant jugé à risque, soit ils vendaient, soit ils étaient expropriés. Engin a signé en novembre 2015. Son petit immeuble a été détruit en juin 2016. Le chantier de la tour moderne s'est arrêté aux fondations en juillet 2017. Depuis 2 ans, Engin ne touche même plus les aides à la location que le promoteur devait lui verser le temps de finir le projet. Il a tout perdu. À Fikir Tepe, selon lui, 65 000 personnes ont été victimes des mêmes promesses déçues.
J'ai 3 bouches à nourrir. Ma mère, mon épouse et ma fille de 4 ans. Avec mon salaire de chauffeur de transport scolaire, je dois payer le loyer de 2 appartements. À Fikir Tepe, la plupart de mes voisins étaient des personnes âgées qui avaient pour seul bien leur petite maison. À plus de 65 ans, ils sont désormais contraints de faire des petits boulots pour payer un loyer.
Engin a téléphoné sans relâche au groupe chargé de son projet. Une seule fois, en janvier 2018, le promoteur, un célèbre scénariste turc, a accepté de le recevoir avec d'autres propriétaires.
Il nous a dit « c'est la crise, je ne peux rien faire, mais vous, vous feriez mieux de ne pas trop parler dans les médias ». On ne l'a plus jamais revu. On n'a plus jamais revu personne d'ailleurs, car les bureaux de la société ont été vidés.
Le cas d'Engin et de ses voisins est loin d'être isolé. Ailleurs, à Istanbul, d'autres chantiers gelés, d'autres appartements que personne n'achète ou ne loue. Selon le spécialiste Ahmet Bükdüman, ces immeubles fantômes ne sont pas le reflet d'une crise générale du secteur. Ils illustrent plutôt l'échec d'une certaine catégorie de promoteurs, apparus sous le règne du Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, et qui ont pris trop de risques dans le financement de leurs projets.
Encouragés par la hausse rapide des prix de l'immobilier, certains entrepreneurs se sont mis à acheter des terrains avec des crédits bancaires, à construire leurs immeubles avec des crédits bancaires, et à ne pas trop se presser pour vendre, confiant dans le fait que les prix ne feraient qu'augmenter et qu'ils vendraient plus cher, plus tard, des appartements souvent très luxueux.
Cette fois en des profits toujours plus alléchants, les promoteurs la devaient aussi aux promesses du gouvernement, observe Ahmet Bükdüman.
Le gouvernement a investi dans d'énormes projets d'infrastructures à Istanbul et a affiché l'ambition de construire un grand centre d'affaires sur la rive asiatique, qui aurait fait de la ville un centre financier régional et n'aurait pas manqué d'attirer de nombreux expatriés en quête de logements de standing. C'est pour ça que ces promoteurs se sont mis à construire des immeubles qui ne correspondaient pas du tout à la sociologie et au pouvoir d'achat l'achat des habitants d'Istanbul. Mais à partir de 2016, lorsque l'économie turque a commencé à se dégrader, que le pouvoir a abandonné son projet de centre d'affaires et que les expats tant attendus ne sont pas venus, ses promoteurs se sont retrouvés avec leur crédit et leur logement vide sur les bras.
Ahmed Bugduman ne nie pas les difficultés qu'affronte le secteur de la construction dans son ensemble, comme presque tous les secteurs de l'économie turque. En un an, l'indice des prix de la construction a bondi de 30%. Les effectifs du secteur ont baissé de 10%. Le nombre de permis de construire délivrés a chuté de 41% en nombre d'appartements au cours des 9 premiers mois de 2018. Les entreprises du BTP et les promoteurs immobiliers traversent une période difficile. Mais selon cet expert, ceux qui ont fait faillite ou n'honorent plus leur contrat sont ceux qui ont rejoint le secteur parce qu'ils y ont été incités et soutenus par le pouvoir politique, notamment grâce à des cadeaux fiscaux. Cela représenterait moins de 10% du marché. S'il relativise donc la crise, Ahmed Bugduman juge le gouvernement en grande partie responsable de ses déboires. C'est aussi ce que pense Engin Agüzel, l'habitant de Fikirtepe contraint de vendre son terrain à des promoteurs imprudents. Et c'est donc de l'État qu'il attend aujourd'hui une solution.
En octobre dernier, nous avons rencontré le ministre de l'Urbanisme qui nous a dit « Puisqu'il est question d'un contrat avec un promoteur, c'est un problème juridique, faites un procès. » Chose que nous avions déjà faite. Nous lui avons rappelé que c'était à cause de son ministère que nous avions signé avec ce promoteur. Mais apparemment, il n'en fera rien. Nous cherchons désormais à rencontrer le président, mais nous n'y sommes pas encore parvenus.
Objectif d'autant plus logique que dans la Turquie de 2019, soumise à un régime hyper-présidentiel, plus grand-chose ne se décide sans Recep Tayyip Erdogan.
L'appétit de béton des promoteurs immobiliers qui voudraient investir un petit coin tranquille du centre de Belgrade avec la bénédiction de la mairie. Le quartier de Vračar, riche de ses villas art déco. Alors, les habitants du quartier se mobilisent et ils ont obtenu une première victoire, Simon Rico.
On ne veut pas de vos pelleteuses dans notre rue. On ne vous laissera pas détruire notre vieux Belgrade. Voilà quelques-uns des slogans que l'on peut lire sur les banderoles accrochées aux fenêtres des maisons art déco de la rue Topolska, l'une des principales artères du quartier de Vračar, en plein centre de Belgrade. Ce petit coin résidentiel, proche du célèbre marché Kalenić, a été construit dans l'entre-deux-guerres quand de nombreuses familles bourgeoises de toute la Serbie venaient s'installer dans la capitale où elles se faisaient construire des villas confortables et harmonieuses. Organisées sous la bannière de l'association Topolska, les riverains ont décidé d'entamer une lutte contre ce qu'ils décrivent comme la sauvagerie des investisseurs qui érigent depuis quelques années des bâtiments qui n'ont pas grand-chose à voir avec le style architectural existant, qui ne respectent aucune des normes urbanistiques en vigueur et détruisent l'authenticité du quartier. Ces habitants expliquent qu'ils ne sont pas contre les nouvelles constructions, mais qu'ils souhaitent que l'on respecte le plan d'aménagement, l'harmonie architecturale et le nombre d'étages maximum prévu par la loi. D'autant que la densification du quartier a des conséquences nuisibles pour tous, espaces verts détruits, aucune place pour se garer et des voitures qui empiètent sur les étroits trottoirs. Après la chute du régime socialiste en 1991, d'autres quartiers ont connu le même sort, les investisseurs profitant de la cacophonie provoquée par la transition et du manque de contrôle des autorités municipales sur le cadastre. Au milieu de l'été dernier, les habitants de Vračar ont bien obtenu de la mairie qu'elle protège une partie du quartier, mais cela ne semble pas dissuader les promoteurs. Les boîtes aux lettres sont toujours remplies de petits flyers proposant d'acheter des maisons à bon prix pour y construire à la place un immeuble.
Les Balkans et les mésaventures de Skopje. Il y a 8 ans, la capitale de la Macédoine a acquis à grands frais des copies chinoises des bus rouges londoniens. Mais déjà, un quart de ces véhicules sont hors d'usage. Alors pour parer au plus pressé, la société de transport public a dû remettre en service ces vieux bus très polluant, Simon Rico.
Sur les 380 bus dont dispose la STP, la société de transport public de Skopje, 100 sont en panne, bloqués dans les dépôts de Gorce Petrov et d'Avtokomanda, et 43 d'entre eux sont même bons pour la casse. À l'hiver 2012, la mairie de la capitale macédonienne avait pourtant déboursé près de 50 millions d'euros pour renouveler son parc de véhicules et s'offrir de clinquantes répliques des célèbres bus à Impérial de Londres. Fabriqués par le chinois Yutong et l'ukrainien Laz, qui a depuis fait faillite, ces bus ont très vite présenté de graves problèmes de moteur et de boîte de vitesse. Pour ne rien arranger, leur entretien s'est révélé coûteux et complexe, surtout pour trouver des pièces de rechange. 46 autres véhicules sont d'ailleurs à l'arrêt à cause de l'état de leurs pneus, avoue la STP sans donner plus d'explications. Faute de pouvoir assurer correctement la maintenance de ces nouveaux bus, dont le coût explose, la société de transport Scopiot a fini par ressortir ses vieux bus à accordéon datant de l'époque yougoslave. S'ils sont très polluants, un problème qui aggrave encore la très mauvaise qualité de l'air qui fait tousser tout l'hiver les habitants de Skopje, au moins ils roulent. La mairie a néanmoins promis l'achat d'ici 2020 de 35 nouveaux bus dits écologiques parce qu'ils roulent au GPL. Malgré l'aide prévue de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, l'addition promet d'être salée en 10 ans la capitale macédonienne aura dépensé près de 90 millions d'euros pour ses bus, alors même que le nombre de passagers a été divisé par 3 depuis l'indépendance.
Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
La ville idéale ou Big Brother. Rendez-vous à Mannheim, en Allemagne, dans le quartier Benjamin Franklin, quartier d'un nouveau genre, sur un ancien site de l'armée américaine. La ville a décidé d'en faire un laboratoire de la ville du futur, la Smart City, où le numérique est mis au service de l'environnement et du vivre ensemble. C'est un reportage de Willowen Munoz-Boileau.
C'est encore un immense chantier de 144 hectares, soit l'équivalent de 200 terrains de foot. Au milieu des grues et des pelleteuses, les premiers immeubles, des cubes de 3 étages, accueillent déjà les premiers habitants comme Sarah. Cette mère de famille a emménagé en octobre dernier.
On voulait acheter un appartement à la fois proche de la nature et de la ville pour les enfants. Celui-ci nous a plu. Ce n'est qu'ensuite qu'on a découvert le super concept qui se mettait en place ici.
Ce concept, c'est celui du Blue Village, un concept imaginé en 2011 par la ville de Mannheim après une consultation citoyenne. Christian Specht, premier adjoint au maire chargé du numérique.
Le concept du Blue Village, c'est par exemple des panneaux solaires sur votre toit qui vous alimentent en électricité et en chaleur et qui, en même temps, avec l'énergie produite, permettent de recharger la voiture électrique que vous partagez avec d'autres résidents. Le numérique joue un rôle central là-dedans. Il permet d'organiser non seulement l'approvisionnement en énergie, mais aussi la mobilité, l'habitat et le vivre ensemble. Et c'est ce que nous voulons démontrer à Benjamin Franklin.
L'objectif, c'est de créer un quartier qui offre une meilleure qualité de vie, plus d'espaces verts, moins de voitures, donc moins de CO2 et aussi moins coûteux pour ses habitants. Pour cela, la ville a imaginé un vaste réseau de voies piétonnes et de pistes cyclables, mais aussi un système de partage et de location de véhicules propres. Et c'est l'urbaniste Oliver Leicht et son équipe qui ont développé cette offre. Pour en faciliter l'accès aux résidents, ils ont créé une application de quartier.
On a commencé avec 4 voitures électriques. À la fin, il y en aura 40, 10 motos électriques et 5 vélos cargo. Il y a aussi du covoiturage. Et d'ici quelques mois, il y aura même une navette sans conducteur d'une capacité de 8 personnes. On travaille à connecter le tout au réseau de transport public.
Le tout pour un forfait de 40 euros par mois. Alors, efficace. À en croire Oliver Leicht, certaines familles se sont carrément débarrassées de leur voiture. Le forfait leur coûte tout simplement moins cher et leur permet de réduire leur empreinte carbone. Mais tous ne sont pas encore convaincus. Jacob a emménagé avec sa femme et son fils en septembre.
On a reçu beaucoup d'infos sur le sujet, mais je n'ai pas encore utilisé l'application. J'ai ma propre voiture, donc pour moi, ça ne vaut pas le coup. Si on a emménagé ici, c'est surtout parce que le loyer était moins cher qu'en centre-ville.
D'autres résidents attendent que l'ensemble des infrastructures soient réalisées pour se prononcer sur la réussite du projet. Mais au-delà de l'offre de mobilité, l'application a été conçue comme une plateforme d'échange où les résidents peuvent créer des groupes pour se retrouver selon leurs intérêts. Et ils pourront aussi bientôt profiter de services à la personne du type relais-colis et conciergerie. Tout cela fait partie du concept de Smart City, dont le but est aussi de créer un quartier mixte. Laura Todaro, responsable communication de la société MVSP chargée du projet.
On veut attirer tous les types de profils. C'est pour ça qu'on a toutes sortes d'offres, des logements sociaux, penthouse de luxe. On veut attirer aussi bien des familles que des couples de personnes âgées, n'exclure personne. On veut permettre aux personnes âgées de pouvoir vivre dans le quartier. C'est pour ça qu'on développe des services et des activités locales, mais aussi un système d'entraide entre voisins et des projets de coopération.
Et tout cela passera bien sûr par l'application. Benjamin Franklin compte aujourd'hui 700 habitants et devrait en accueillir 9000 d'ici la fin des travaux en 2025. S'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, le projet est ambitieux par son approche globale. Pour la ville de Mannheim, le quartier sert de laboratoire au concept de Blue Village, un concept qu'elle pourrait bien étendre à d'autres parties de la ville en cas de succès.
Alors dans le reportage de Willow & Munoz, on l'entend, pour faire fonctionner ce modèle de Smart City, il y a une application, beaucoup de données personnelles. On accueille Martin Drago, vous êtes juriste à la Quadrature du Net, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de données personnelles qui sont partagées, qui sont mises en commun, ça pose pas des problèmes, ça, de sécurité?
Oui, évidemment, alors il y a plusieurs thèmes qui sont intéressants, je trouve, dans ce reportage. Premièrement, c'est l'objectif poursuivi. En fait, on retrouve dans la Smart Cities, et comme dans la Safe Cities, donc la Smart Cities a plutôt tendance sécuritaire, on retrouve cet objectif un peu fantasmé de ville idéale, de ville parfaite, où tout va se faire avec une sécurité parfaite et tout le monde sera très content. Et cette ville parfaite, à chaque fois, elle passe par l'interconnexion. On retrouve souvent le terme de cerveau unique pour une ville. Et donc toutes nos données de nos activités vont se retrouver en fait centralisé dans ce cerveau unique, dans cette plateforme unique.
C'est quoi le danger? Parce que c'est plutôt pas mal, on pourrait se dire. Et alors, on vit mieux, justement.
Alors, il y en a plusieurs de dangers. Alors, effectivement, comme vous le dites, il y a un problème de sécurité. Toutes ces données vont se retrouver dans une même base de données, parce que justement, l'intérêt, c'est la centralisation. Et le problème de la base de données, en fait, c'est la sécurité de la base de données.
Qui peut être piratée.
Nous, souvent, ce qu'on entend, c'est pas comment elle va être piratée, c'est quand elle va être piratée. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Facebook, etc. Ils nous disent qu'ils mettent énormément d'argent dans ces bases de données pour sécuriser ces bases de données, mais en fait, il y a toujours une faille. Et donc, justement, centraliser toutes ces données d'une même ville dans une seule base de données, c'est vraiment risquer que l'ensemble des données des citoyens. Et là, dans le reportage, on parle quand même des moyens de transport, on parle de la consommation énergétique, on parle des réunions entre citoyens. Donc, toutes ces données-là, on parle de données qui sont en fait personnelles parce qu'elles regroupent plein d'activités. Et donc, en les interconnectant, on peut deviner l'identité des gens. Et ensuite, en les regroupant dans une seule base de données, il y a un vrai risque de faille. Et ça arrive tout le temps en ce moment, de fuite des données personnelles des gens dans le réseau, quoi.
Est-ce que le problème, c'est pas aussi que toutes ces données personnelles dans des collectivités se retrouvent finalement données à des sociétés privées qui vont souvent gérer les différents services qui sont proposés aux citoyens?
Exactement, ouais. C'est aussi un des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans ce type de ville. C'est en fait, comment vont être utilisées ces données? Alors vous parlez des sociétés privées, il faut aussi parler du public, de l'autorité. Si par exemple, si c'est la mairie qui s'en occupe, on va quand même donner un nombre de données personnelles à une autorité administrative, la mairie ou la région, qui vont permettre en fait une surveillance accrue de la population. On va pouvoir savoir comment vous vous déplacez, quel type d'énergie vous utilisez, comment, etc. Mais effectivement, à chaque fois dans le Smart City et un Safe Cities, on retrouve aussi ce principe de délégation de politique publique, donc de la gestion d'une ville, à souvent un logiciel développé par une entreprise privée. Et après, qu'est-ce qu'elles vont faire de ces données personnelles? Ça, c'est la vraie question. Ouais.
Malgré ça, et parce que justement, tout le monde a envie de mieux vivre en ville, les smart cities se développent et les safe cities aussi. Alors, vous le disiez, c'est des smart cities qui sont tournées vers la surveillance, plus exactement.
Exactement, ouais. Alors, la safe city, on parle souvent de la première brique de la smart city. C'est-à-dire, en fait, nous, on le définit comme l'usage policier des nouvelles technologies. Dans ce cadre justement de ville idéale parfaite, le premier fantasme qu'ont souvent les autorités et les entreprises avec qui elles collaborent, c'est une ville parfaitement sûre. Et donc ça va passer par des nouvelles technologies comme la reconnaissance faciale, comme des caméras intelligentes. C'est-à-dire les caméras intelligentes, c'est plus seulement la vidéosurveillance, c'est la nouvelle couche qu'il y a derrière. On va détecter un cri, on va détecter, donc avec des micros, on va détecter un mouvement de foule, un geste brusque. On va pouvoir repérer tout le temps les plaques d'immatriculation des voitures. Et il va y avoir, et ça c'est très lié à la Smart City aussi, l'utilisation de toutes les données, le big data on dit, de toutes les données issues d'une ville pour gérer la ville et puis prévoir ce qui peut se passer. C'est notamment le thème de la police prédictive. C'est-à-dire qu'on va dire, ah ben en fait, avec toutes les données qu'on a, il y a un risque d'incident dans tel quartier. Donc en fait, il vaut mieux de mettre telle patrouille à l'avance dans ce quartier pour pouvoir prévenir du risque.
Merci Martin Drago.
Je vous en prie.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur RFI.fr, podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux également. Et bien sûr ici demain à la même heure.